Je voudrais d'abord présenter mes vœux à tous ceux à qui je n'ai pas déjà eu l'occasion de le faire. Et j'aime les formuler d'une manière qui est biblique, et nous allons encore le réentendre dans quelques instants, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai l'agréable mission ce matin d'entamer une série de prédications qui va durer je ne sais combien de dimanches exactement, une série de prédications sur la première épître de Pierre. Nous allons considérer ensemble les premiers versets, les 9 premiers versets dans quelques minutes. Mais je pense utile de commenter auparavant le mode même de prédication qui va être mis en œuvre. C'est une prédication donc, qui suit le texte biblique, tout simplement, qui essaie de l'expliquer, de l'appliquer, selon le fil même de sa rédaction. Les anglo-saxons appellent le genre de prédication qui est en cause « exposition biblique », parce qu'il s'agit d'exposer le contenu, fondamentalement. C'était un mode de prédication qui était aussi très typique du protestantisme français, d'après ce que j'ai lu, au XVIe et au XVIIe siècle, mais qui s'est parfois un peu perdu dans nos régions, mais que les anglo-saxons ont davantage préservé. Ce mode de prédication n'est pas très favorable à des manifestations d'éloquence. On ne peut pas faire briller l'oratoire, mais il a deux avantages capitaux, d'autres peut-être encore, mais j'en mentionne deux avantages de tout premier rang. Le premier avantage, c'est qu'on serre le texte du plus près possible, et que c'est la source d'autorité, que c'est la parole de Dieu pure et vivifiante. Vous n'êtes pas venu ce matin, et vous n'êtes pas devant votre écran si vous suivez ce culte comme à distance, si vous y participez à distance. Vous n'êtes pas venu pour avoir simplement le plaisir d'entendre quelques idées intéressantes ou une forme de paroles qui vous plaisent, vous êtes venu pour entendre la parole de Dieu. Et la prédication est parole de Dieu si elle est étroitement liée au texte que Dieu lui-même a inspiré de manière plénière, l'Écriture sainte. C'est à partir de l'Écriture sainte que nous pouvons recevoir le message de Dieu lui-même, c'est par là qu'il veut nous parler dans tous les siècles de l'histoire de l'Église et aujourd'hui encore. Donc, l'autorité qui peut nous faire grandir en Christ, et si nous ne l'avons pas encore reçu, nous communiquer la vie en Christ, c'est par la parole de l'Écriture répercutée, mais la parole de l'Écriture que Dieu a inspiré, que nous pouvons en profiter. Ça, c'est l'avantage numéro un. Et l'avantage numéro deux, c'est que lorsque l'on choisit un sujet particulier pour la prédication, un verset, je le sais bien, puisque j'ai une expérience assez longue de prédicateur moi-même, il y a certains sujets qu'on ne va pas choisir. Non, il est trop périphérique, il est trop particulier, puis on déverrait le soupçon qu'on a voulu dire ça pour telle ou telle personne. Ah non, alors non, on ne va pas choisir ce sujet-là. Alors que quand on suit le texte biblique lui-même, tout naturellement, on aborde certains sujets qui autrement resteraient sur le côté. C'est un grand avantage de ce mode de prédication qui sera donc poursuivi dans les semaines qui viennent. Quant à la première épître de Pierre, juste un ou deux mots pour l'introduire dans son ensemble, C'est une épître très précieuse par son équilibre. C'est une taille moyenne, elle n'est pas trop longue, pas trop courte. C'est une épître qui est à la fois théorique et pratique. Elle nous enseigne les faits principaux de la doctrine, mais elle nous donne aussi quelques indications sur la manière de vivre de façon correspondante. Donc c'est une épître très équilibrée. C'est une épître dont sans doute la situation peut être comparée à la nôtre avec toutes les peurs, toutes les angoisses qui nous entourent aujourd'hui. Elle est écrite à des chrétiens qui se trouvent dans diverses provinces de l'Empire romain, de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie actuelle. Ces provinces comptait un certain nombre de chrétiens, nous ne pouvons pas savoir combien à l'époque de la rédaction de l'Épître, qui est sans doute de la 7e décennie, les années 60 et quelques du 1er siècle. Ces chrétiens étaient en but, non pas, semble-t-il encore, à une persécution d'État tout à fait systématique, ordonnée à partir de Rome, mais quand même à une attitude hostile de la majorité de leurs voisins, de la population païenne au sein de laquelle ils se trouvaient. Il y avait des calomnies, des ennuis avec la police par moments, il y avait des procès du harcèlement, de l'ostracisme, et c'est dans cette situation que quand même Pierre compare à une fournaise. Ça chauffait pour eux. C'est dans cette situation que Pierre leur adresse un message fondamental avec les applications qui comportent la consolation, mais qui comportent en cours beaucoup d'autres directives, parce qu'il ne s'agit pas simplement de s'apitoyer sur soi-même quand on est dans des situations délicates, lorsque l'on est en but à des difficultés. Donc, je pense qu'on peut comparer, ça va être fait au cours des prédications qui vont venir, on peut comparer la situation de ces chrétiens à la nôtre aujourd'hui, parce qu'il y a un sentiment qui grandit, semble-t-il, qui n'est pas très favorable aux chrétiens évangéliques alentour. Et certains d'entre vous, vous pouvez éprouver véritablement des manifestations d'hostilité, d'agressivité. Donc, c'est un texte qui peut nous parler. Alors, il semble que ces chrétiens aient été, non pas des juifs, parce qu'il y a des références à leur vie passée qui ne conviennent pas à la manière de vivre des juifs, mais sans doute quand même des gens qui connaissaient déjà bien l'Ancien Testament, parce que l'apôtre Pierre, excusez-moi, ne cesse de s'y référer. Alors, on pense qu'il pouvait s'agir de païens qui étaient en cours d'adhésion au judaïsme, des demi-prosélytes. Ils n'étaient pas encore tout à fait des prosélytes, et c'est une catégorie de gens qui ont accueilli l'évangile en grand nombre dans la première et la deuxième génération de l'Église, parce qu'ils étaient déjà préparés bibliquement, ils connaissaient un certain nombre de données, et ils n'étaient pas liés par les barrières que le nationalisme judaïque pouvait représenter pour d'autres. Voilà, en gros, la situation dans laquelle cette épître a été écrite par Pierre et sans doute par Sylvain Silas, ces deux formes du même nom, hein, parce qu'au chapitre 5, l'apôtre Pierre dit que c'est par lui, par Silas, Sylvain, qu'il a écrit la lettre. Donc il a dû collaborer à la rédaction. Nous lisons donc les 9 premiers versets de cette première épître de l'apôtre Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Les deux premiers versets se détachent comme l'adresse de toute l'épître, donc ça constitue une première partie à traiter séparément. Et puis ensuite, donc, nous avons les versets 3 à 9. Certains essayent de les diviser en deux parties, par exemple, c'est une possibilité, mais comme il y a beaucoup de répétitions, moi, il me semble plus commode pour nous d'en exposer le contenu selon trois grands thèmes qu'on y trouve. Donc je vais d'abord commenter les deux premiers versets, les versets de l'adresse, et ensuite donc parler de trois grands thèmes qui sont en cause dans les versets qui suivent. L'adresse, généralement, elle comporte le nom de la personne, sa situation, ses coordonnées. C'est l'identité de ceux qui sont les destinataires qui est en cause. L'identité chrétienne. Pierre définit celle de ses correspondants, de ses chrétiens auxquels il s'adresse, mais je crois qu'on peut dire qu'en dehors de la limitation géographique aux provinces romaines de l'Asie mineure, tous les traits qui sont ici en cause constituent aussi notre identité et que nous pouvons nous approprier ce qui est dit. Cette identité, elle est définie principalement, c'est là-dessus que Pierre insiste, par la relation à Dieu. C'est cela qui compte suprêmement en ce que nous sommes. La relation à Dieu et Pierre, ça c'est une originalité de son adresse par comparaison avec la forme de l'adresse dans d'autres épîtres, c'est une présentation trinitaire. C'est la relation à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ou plutôt dans l'ordre de Pierre, Père, Saint-Esprit et Fils Jésus-Christ. L'identité chrétienne est définie de cette triple façon et je crois très intéressant pour nous de l'observer et de nous appliquer ce qui est dit là. Alors d'abord, les chrétiens sont choisis par Dieu, élus par Dieu. Ce sont deux mots qui signifient exactement la même chose, qui traduisent le même terme dans l'original. Élus, choisis par Dieu selon sa préconnaissance. Le mot de préconnaissance ou de connaissance dans l'ensemble de la Bible a assez souvent un sens qui n'est pas simplement de savoir, mais un sens de choix, de premier mouvement du choix. Là, il nous faut, quand nous voyons le verbe connaître dans les traductions particulièrement littérales, il faut savoir que ça peut vouloir dire déjà choisir, premier mouvement par lequel la volonté s'attache à ceux qui sont ensuite l'objet du choix. Une preuve que c'est un sens qu'il faut reconnaître, c'est par exemple dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 2, le prophète dit à Israël, je n'ai, de la part de Dieu, c'est Dieu qui parle par lui, je n'ai connu que vous parmi toutes les familles de la terre. Il est évident que Dieu, au sens du simple savoir, il connaît tous les peuples de la terre, totalement, parfaitement, il n'y a pas de différence entre les peuples, les familles de la terre. Mais là, le verbe a référence à l'élection d'Israël, et donc le verbe connaître a cette signification. Et dans le premier chapitre de la première épître de Pierre, nous avons un autre cas où le verbe préconnaître a ce sens. Il nous est dit un peu plus loin, ce sera un passage commenté plus tard dans la série, mais il nous est dit que Jésus-Christ, comme agneau de Dieu qui expie tous les péchés, a été préconnu. Alors, comme Jésus-Christ est le Fils lui-même, on ne peut pas dire que c'est un simple savoir, c'est dans le conseil de la Trinité divine, lui qui a été désigné pour s'incarner et pour devenir donc le serviteur du Seigneur qui porte les péchés du monde. Donc nous avons là la preuve que le verbe connaître dans le langage de l'apôtre Pierre peut avoir ce sens, et il l'a certainement ici. Tout commence par le Père, puisqu'il est le premier dans l'ordre de la Trinité, et il nous a choisis. C'est là le point de départ de tout ce que nous pouvons dire des bienfaits de Dieu. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde. Voilà une doctrine qui revient assez souvent dans l'Écriture, mais que certains chrétiens évangéliques ont peur de mettre en avant. Ils sont comme intimidés, ils font comme si le texte n'en parlait pas si souvent, alors que c'est assez souvent le cas. Mais c'est une doctrine douce et savoureuse, c'est elle qui nous donne une pleine assurance. Tout commence par Dieu, il a fait ce choix dès avant la fondation du monde, c'est absolument sûr et certain. Ce choix par Dieu nous donne une pleine assurance et nous permet de rendre à Dieu toute la gloire. C'est lui qui a choisi, qui a tout déclenché, c'est lui qui a tout décidé. Donc, c'est à lui que toute notre reconnaissance doit aller, à qui nous pouvons donner toute la gloire des bienfaits dont nous jouissons. Dans la sanctification ou la consécration, là aussi c'est deux traductions possibles du même mot, de l'Esprit. Dieu nous a choisis pour que nous lui appartenions. C'est ça ce qui constitue l'essentiel de la sainteté. Ce qui est saint ou sacré, c'est ce qui appartient de manière exclusive, spéciale à la divinité. Et si nous sommes les saints, c'est parce que Dieu nous a choisis pour que nous lui appartenions d'une manière tout à fait spéciale. Alors ça a des conséquences pour la conduite, parce que si nous lui appartenons, il nous faut lui plaire, il nous faut marcher de manière qui est conforme à sa nature et sa volonté, mais d'abord c'est pour lui appartenir. Et c'est l'Esprit, dans la répartition des missions au sein de la Trinité, c'est l'Esprit qui opère en nous le travail qui nous fait appartenir au Seigneur de manière de plus en plus totale, profonde, pure. C'est là l'œuvre de la sanctification que l'Esprit accomplit. Et puis, c'est pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Là, vous avez deux mots qui correspondent à deux titres de Jésus. Il est le Seigneur, et la confession de foi fondamentale dans le Nouveau Testament pour le christianisme, c'est Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, et à un Seigneur, il faut obéir. Donc, pour l'obéissance du Seigneur Jésus. Et l'aspersion du sang, ça c'est une expression qui est tirée du système des sacrifices de l'Ancien Testament et tout spécialement des rites d'expiation, d'effacement du péché. Et dans le Nouveau Testament, le développement le plus long, le plus fourni sur ce sujet, avec le rôle du sang, c'est au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux qu'on le trouve. Vous pourrez le lire à part. Jésus-Christ n'est pas seulement le Seigneur, il est le Sauveur, le Rédempteur, celui dont le sang nous purifie de tout péché. C'est là le prix du salut qui nous est donné. Il a donné sa vie, représentée par son sang, pour nous. Il a pris notre place sous la condamnation, il nous en a ainsi totalement libérés, et nos péchés sont totalement expiés. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, c'est Paul qui nous l'écrit, mais bien sûr, il est d'accord avec Pierre. Plus aucune condamnation à cause du sang que Jésus a versé pour nous. Voilà notre identité chrétienne qui est définie dans sa relation avec le Père, l'Esprit et le Fils Jésus-Christ. Et il y a encore un point qui est un marqueur de notre identité dans cette introduction ou adresse aux élus, aux choisis de la dispersion, de la diaspora. Vous avez sans doute entendu ce mot diaspora, qui est le mot grec qui est employé ici, mais on l'utilise aussi en français. C'est un mot qui servait pour désigner la dispersion, la dissémination des Juifs dans tout l'Empire romain. Et il n'y avait finalement qu'une minorité de Juifs au 1er siècle qui habitaient en ce que nous appelons Palestine, sur la terre de Juda et d'Israël. Et il y avait beaucoup de Juifs qui étaient dispersés dans tout l'Empire romain. Il y en avait beaucoup, beaucoup en Égypte, il y en avait pas mal à Rome, et il y en avait aussi en Asie mineure, qui faisait partie de l'Empire romain à l'époque. J'ai lu quelque part qu'on compte qu'il y avait probablement jusqu'à 10% de la population globale de l'Empire romain qui était formée de ces Juifs. Le mot de diaspora pour les chrétiens qui étaient dans ces régions, je pense que Pierre suggère que l'Église, c'est l'Israël renouvelé, c'est l'Israël non pas selon la chair, mais selon l'Esprit, et l'Israël qui est formé de ceux d'Israël selon la chair qui avaient accueilli Jésus et le message de l'Évangile, mais aussi de tous les païens greffés sur cet Israël ancien, de telle sorte que les titres d'Israël reviennent maintenant à l'Assemblée du Seigneur. C'était un titre d'Israël aussi, ça, le mot d'Assemblée ou Église. À l'Assemblée du Seigneur que nous constituons aujourd'hui. Alors, c'est un thème qui est repris plus loin dans l'Épître, donc je n'en dis pas plus maintenant. Il va être certainement commenté. Mais vous voyez comment notre identité chrétienne est parfaitement dessinée dans ces premiers versets. Alors ensuite, nous avons une grande bénédiction du Seigneur, c'est-à-dire une prière d'action de grâce et de louange qui est adressée à Dieu pour les bienfaits qu'il nous accorde. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père en lui. C'est une prière de louange et les trois grands thèmes que j'y retiens pour maintenant développer, c'est d'abord celui de l'héritage espéré, ensuite celui de l'expérience présente qui correspond, et troisièmement de la condition à remplir pour en bénéficier. Voilà les trois éléments que je trouve dans ces versets et que je vous invite à considérer. Avec l'identité qui vient d'être définie, nous bénéficions d'une espérance vivante, dit Pierre. Espérance vivante, pas un vague espoir, pas juste des idées, oh, peut-être que ça... Une espérance vivante. J'ai accepté le titre donné au sujet de cette prédication dans, dans l'Annonciation a été faite, hein, le salut objet d'émerveillement, parce que ça correspond bien à toute une partie du contenu. Mais je vous avoue que dans mes notes, j'ai mis plutôt comme titre l'espérance vivante. Ce n'est pas contradictoire, mais c'est vraiment un thème qui me semble ressortir d'abord. Alors, l'espérance, elle vaut de ce qui est espéré. Qu'espérons-nous ? Nous espérons le salut, précisément. Objet d'émerveillement. Le salut, deux fois le texte utilise le terme, nous sommes gardés pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est le salut qui est promis, vers lequel se tend notre espérance. Et le mot revient encore tout à la fin du passage que nous avons lu. Vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. C'est le salut qui est le bien, d'abord, qui nous est communiqué. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour être sauvé, il faut être perdu. On est sauvé d'un état de perte ou de perdition. Autrement, on ne parlerait pas de salut. Il nous faut nous rendre compte que l'état naturel, l'état dans lequel nous nous trouvions avant que le Saint-Esprit nous applique précisément ce que Dieu nous a réservé, c'est un état misérable, un état très dangereux de perdition. Nous avons perdu notre chemin et nous allons vers un abîme de perdition si le Seigneur n'a pas compassion de nous. C'est par sa grande miséricorde ou compassion. Ça veut dire que nous étions misérables. La miséricorde, c'est un cœur pour les miséreux. C'est ça ce que le mot même, dans sa construction, veut dire. On a compassion de ceux qui souffrent. C'est à partir d'une situation de perte de ce pour quoi nous étions faits, de perdition irrémédiable, que le Seigneur intervient pour nous sauver. Voilà ce qu'il nous faut nous rappeler. Et c'est déjà l'occasion pour nous d'un mouvement de reconnaissance. Ce n'est pas des gens qui étaient très bien et à qui le Seigneur donne une promotion. Hein. Ce sont des gens sur le sentier de la perdition que le Seigneur est venu sauver. Voilà, premier élément que je fais ressortir dans le passage que nous considérons. Deuxième élément, c'est un héritage pour un héritage. Et là, il me semble très intéressant de noter la présence répétée de ce thème de l'héritage dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien aussi. C'est vraiment une catégorie clé de la pensée de la Bible. Et je crois que comme l'héritage a perdu beaucoup d'importance dans notre société, avec son individualisme, nous n'y pensons pas assez. Nous ne nous rendons pas compte de tout ce que le mot « héritage » implique et de très positif. Alors je résume, un héritage, c'est souvent quand même une belle somme. Hein. Un héritage, ça peut être un trésor prodigieux et un oncle d'Amérique qui tout à coup lègue une somme très importante à un SDF, ça arrive, les journaux en parlent. Un héritage, c'est souvent un trésor, et c'est un trésor que l'héritage qui nous est promis. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas gagné. Hériter, c'est justement ne pas recevoir un salaire, mais recevoir quelque chose qui est gratuit. Et qui, dans le cas le plus habituel, je sais bien qu'il y a d'autres situations, mais dans le cas le plus habituel, est donné à partir d'un lien de parenté, d'un lien qui lie dans son être celui qui hérite et celui qui a fait le testament, qui accorde l'héritage. Et tout cela s'applique, vous voyez, de façon tout à fait exacte à notre relation à Dieu. C'est quelque chose que nous n'avons pas gagné, qui nous accorde cet héritage splendide et Et nous n'avons pas mérité, nous n'avons... toutes les œuvres que nous pouvons proposer ne vaudraient rien à côté de, du prix quasi infini de cet héritage. Et de toute façon, nos œuvres sont tellement imparfaites qu'elles ne vaudraient pas. Mais c'est un cadeau, comme un cadeau qu'on reçoit quand le notaire nous dit « il y a un testament pour vous ». Vous voyez, c'est et à cause du lien de parenté. Nous sommes les héritiers parce que nous avons reçu l'Esprit qui nous permet de dire « Père, Abba Père ». Et nous sommes ainsi co-héritiers de Christ qui est notre frère. Voilà ce que le Nouveau Testament met en relief à propos de cet héritage. Et alors cet héritage, il est caractérisé de quatre façons dans le texte. Alors on peut traduire de manière un peu différente, mais dans la Nouvelle Bible, second que j'ai utilisé, il est d'abord impérissable. Impérissable. On peut traduire, c'est peut-être encore un peu plus exact, incorruptible. Tous les biens de la terre, finalement. Ils sont susceptibles de se corrompre. Alors, si c'est de la matière vivante, c'est de la pourriture, au sens tout à fait littéral de corrompre. Mais Jésus lui-même a attiré l'attention sur la rouille ou la teigne. Faites-vous un trésor qui, justement, ne se corrompt pas comme les biens de la terre. Il est impérissable. Il est sans souillure. Pur, d'une pureté parfaite. Et il ne se flétrit pas. Le texte de la Nouvelle Bible seconde dit inaltérable, mais plus littéralement encore, c'est qu'il ne se flétrit pas. C'est-à-dire qu'il garde toute sa beauté, tout son rayonnement. Et puis, il est gardé pour nous dans les cieux. Gardé pour nous. Il est en réserve. C'est parfaitement sûr déjà. Si vous voulez, on peut imaginer comme ça. Évidemment, ce n'est qu'une image. Mais il y a déjà un casier à votre nom dans le ciel et il y a l'héritage dedans. Il est là pour vous. C'est une chose qui est déjà attribuée. Il est réservé à ce que Dieu a choisi. Voilà les quatre traits caractéristiques de l'héritage qui sont mises en relief par le texte que nous considérons. Et puis, il y a un dernier trait qui me semble très très important de ce salut qui fait notre émerveillement. Vous voyez, il y a de quoi s'émerveiller de ce salut qui nous est accordé. C'est lors de la révélation de Jésus-Christ que nous entrerons pleinement en possession de cet héritage. Ça veut dire que Jésus-Christ sera révélé, que le voile qui nous le cache sera levé et que nous le verrons tel qu'il est. Nous l'aimons déjà. Et grâce à son esprit qui verse son amour dans notre cœur, nous l'aimons déjà, mais sans le voir encore. C'est ce que dit le texte. Non, il ne faut pas s'imaginer. Oui, bien sûr, en un sens, il nous est dépeint dans la Bible et nous avons une certaine image, mais nous ne le voyons pas quand même. Et c'est une frustration. Mais le jour vient où il sera révélé. Nous le verrons tel qu'il est, et nous serons rendus semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Là, je pense au cantique, c'est numéro 386 dans « À toi la gloire », voir mon Sauveur face à face. C'est un très beau cantique, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, et toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Voilà l'objet de notre espérance, objet qui peut nous émerveiller. Et cet émerveillement, c'est l'expérience présente, parce que si nous vivons dans l'espérance, Et si beaucoup de ce qui nous est promis ne nous est pas encore visible, il y a quand même déjà, dès à présent, beaucoup de choses desquelles nous pouvons rendre grâce. L'espérance dans le Nouveau Testament, ce n'est pas simplement une affaire d'avenir. Elle comprend déjà une anticipation de la jouissance des choses promises. Les images qui ne sont pas employées dans la première épître de Pierre, mais ailleurs, vous les connaissez, il y a l'image des arts. Nous avons déjà les arts par le Saint-Esprit de cet héritage promis. Et nous avons les premiers fruits, les prémices ou premiers fruits qui annoncent la récolte future. Il y a donc dès maintenant une expérience que nous pouvons faire de ce qui se déploie dans le salut. Et l'accent à ce propos dans notre texte, il porte sans nul doute sur la joie. Vous êtes transportés d'allégresse. C'est deux fois que le texte nouveau le met en valeur. Et la joie est caractéristique de l'existence chrétienne selon le Nouveau Testament. Dans la description du fruit de l'esprit que l'apôtre Paul donne dans l'épître aux Galates, il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oh, ça ne nous surprend pas. Et oui, l'amour, c'est la plus grande de ces choses. Mais tout de suite après, c'est la joie. Voilà ce qui caractérise l'existence chrétienne dès maintenant. Alors, il y a différentes modalités de la joie. Il y a des moments d'exubérance, d'effervescence. Et quand on dit transporter d'allégresse, on peut plutôt penser à cela. Mais il est sûr que dans le Nouveau Testament, la joie est aussi en cause lorsque les manifestations sont plus discrètes, plus, disons, égales. Il y a une multitude de formes de la joie, mais il y a toujours la joie. Et il y a la joie, alors là c'est le troisième point à propos de cette expérience présente, même lorsqu'il y a la tristesse. Vous êtes attristé, dit le texte, vous êtes attristé par diverses épreuves. Et il y a une tristesse qui est présente, qui n'est pas simplement la contradiction de la joie. Et d'ailleurs, il nous est commandé de pleurer avec ceux qui pleurent. Et notre Seigneur Jésus lui-même, qui a tressailli de joie en priant le Père, « Père, je te loue !» Mais notre Seigneur Jésus, il a pleuré. Jésus a pleuré. Donc, il y a aussi place pour ces épreuves et de la tristesse et des pleurs. Mais par-dessous, il y a toujours la joie. Là où je pense qu'on peut dire que dans l'existence, il ne connaît pas Dieu, il y a toujours par-dessous, sous les joies plus ou moins factices qu'on peut éprouver, il y a toujours un fond d'angoisse, un fond de peur. Là, dans l'existence que le Seigneur nous permet de mener, il y a un fond de joie, profondément, la paix, la reconnaissance, de savoir que nous sommes aimés de Dieu, qui nous a choisis dès avant la fondation du monde. Voilà qui crée un courant de joie en profondeur. Même lorsque les épreuves sont là, même lorsqu'il y a l'ostracisme de la société alentour. Et là, je voudrais mentionner un sujet qui est aussi un sujet de prière. Notre frère, moi j'ose dire bien aimé, en tout cas très estimé, respecté, M. Franck Meyer, qui est maire d'une petite ville de Normandie, qui est aussi le président du CPDH, le Comité protestant pour la défense de l'humain, est attaqué en justice par une association LGBT pour n'avoir pas voulu, c'est ce que, en tout cas dit l'accusation, célébrer un mariage homosexuel dans sa mairie. Voilà la situation en France aujourd'hui. un chrétien évangélique qui a des responsabilités et qui les exerce, et ça fait un moment qu'il est maire, il a été réélu. Un chrétien évangélique qui exerce des responsabilités pour le bien commun, et le bien public, est attaqué, et c'est pas agréable. Donc, oui, il y a des épreuves qui, dans ce monde, peuvent advenir. Et alors, à travers l'épreuve, ce qui permet que la joie demeure dans la profondeur, c'est cette assurance que nous sommes gardés par Dieu jusqu'à ce jour. Voilà encore une des choses que le texte nous dit très expressément. Et il emploie même un langage qui est emprunté à celui des militaires. C'est gardé comme par une garnison. Une garnison qui est là en place pour intervenir si jamais il y a une attaque. Nous sommes, en quelque sorte, gardés par toute une garnison des bontés de Dieu, et peut-être des anges, qui sont les éléments dont Dieu se sert pour accomplir ses desseins. Donc, il y a une garnison qui nous protège et qui va assurer que malgré tous les faux pas que nous pouvons faire, malgré l'hostilité, malgré les épreuves, nous allons aller jusqu'au bout avec le Seigneur, jusqu'au bout, et recevoir là ce qui est l'aboutissement de notre foi, ce salut prêt à être révélé. Mais il y a une condition, ce n'est pas automatique, et j'arrive donc au troisième grand thème que j'ai retenu. Ce processus dans lequel nous sommes gardés, il requiert la foi. C'est quatre fois, dans ces quelques versets, quatre fois que la foi est mentionnée. C'est par le moyen de la foi. Et c'est comme aboutissement de notre foi que nous recevrons la plénitude du salut à venir. Donc, nous avons là une condition. Dieu ne veut pas simplement nous accorder ses bienfaits, quelle que soit notre attitude. Il veut établir une relation spirituelle avec nous. Et donc, ce n'est pas un automatisme plus ou moins magique d'un rite, ce n'est pas simplement mis au compte de tous les humains sans tenir compte de leur attitude. Non, Dieu veut que cela se passe en rapport avec cette démarche d'adhésion confiante que nous faisons en réponse à sa parole. C'est ça la foi. Le savant juif André Chouraki, qui a été maire de Jérusalem d'ailleurs, dans sa traduction de la Bible, rend le mot foi par le mot adhérence. Oui. Croire en Jésus et en Dieu par Jésus, c'est adhérer, nous greffer, nous brancher sur lui. Cette démarche implique bien sûr une croyance, mais ce n'est pas seulement de la croyance. C'est ce mouvement de notre existence qui nous fait adhérer à Dieu en Jésus-Christ. Et cette foi ne nous est pas naturelle. Nous sommes prisonniers de nos réflexes, de nos mensonges, de notre orgueil. Et il y faut une action divine. C'est lui qui crée en nous la foi, qui nous engendre, parce que c'est comme une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle, il nous engendre de nouveau. Et la condition, elle est donc bien définie au premier verset, il nous a réengendré littéralement, il nous a fait naître de nouveau, mais c'est le mot engendré qui est employé, il nous a réengendré. Et d'autres textes nous disent que c'est à la fois par la parole et par l'esprit que cela se fait. Ce sont les instruments de l'engendrement divin qui fait que nous ne sommes pas ses enfants seulement au sens de créature, mais dans un sens bien plus élevé. Nous sommes ses enfants et ses filles comme ses héritiers avec qui il entretient une relation d'amour étroite, nous permettant de le prier librement, d'accéder jusqu'à lui. Père, Père, il nous a engendrés, il faut passer par cette expérience. Et si elle est possible, c'est par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce qu'ajoute encore notre premier verset du passage, verset 3. Pour naître de nouveau, il faut pouvoir se détacher de la vie passée avec tout le poids du péché. Et cela, ce n'est possible que parce que Jésus-Christ est venu porter ce péché pour nous en décharger. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous donne la foi, nous adhérons au Christ de façon à, en quelque sorte, connaître en nous-mêmes la réplique de ce qu'il a lui-même vécu, sa mort et sa résurrection. Nous lui sommes unis dans sa mort. Il est mort pour abolir toute notre existence de péché qu'il avait pris sur lui. Et donc nous mourons à cette vie passée, vie entre guillemets, parce que ce n'était pas vraiment une vie digne de ce nom. Et nous l'accompagnons dans sa résurrection. Il est le pionnier de la vie qui nous guide dans le chemin de la vie nouvelle à partir de sa résurrection. Donc nous naissons de nouveau, nous passons d'une vie antérieure à une vie nouvelle par adhésion à Jésus-Christ et nous le suivons dans sa mort et sa résurrection. Nous sommes en quelque sorte crucifiés avec lui et nous sommes ressuscités avec lui par cette opération de son esprit qui nous unit à lui. Voilà la condition à remplir. Alors c'est une condition que nous ne sommes pas capables de remplir nous-mêmes. Il nous faut nous ouvrir simplement à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et pour nous qui l'avons fait, qui sommes dans la vie nouvelle, il faut en un sens toujours ratifier à nouveau. Tant que nous sommes dans cette chair, nous avons besoin de nous unir à nouveau toujours à ce Jésus-Christ qui est notre frère et notre chef, notre Seigneur et notre Sauveur. Et si quelqu'un n'a pas encore adhéré à Jésus-Christ, alors pourquoi tarder? C'est aujourd'hui, le jour de grâce, dit la Bible. C'est aujourd'hui que vous pouvez, dans la salle où nous sommes réunis, nous qui sommes ici, mais aussi de chez vous, devant l'écran, c'est aujourd'hui que vous pouvez faire cette démarche de la foi qui vous donnera l'espérance vivante de l'héritage qui ne se peut ni souiller ni flétrir, qui vous donnera l'assurance du salut, objet d'émerveillement que le Seigneur nous accorde en lui. Amen.